Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up. Je suis Ringside, vous écoutez le podcast qui transpire le catch toutes les semaines. On résume, on analyse les émissions de la WWE et qu'on sort, mais surtout la WWE parce qu'il y a beaucoup de boulot en ce moment. On sort tout juste de SummerSlam. Vous pouvez retrouver notre review de Monday Night Raw, c'est en ligne. Mon premier Monday Night Raw, on va dire, de l'ère de Triple H, depuis le départ forcé de Vince McMahon, notre maître à tous. On attaque maintenant avec le premier SmackDown de l'ère Triple H pour m'accompagner. Papy est là, comment ça va, papy?
Enfant, ça va bien, Ringside, et toi, ça va?
Ça va, la pêche, la forme. C'est parti, on n'est pas seulement deux, on est aussi trois. Il y a Géliel qui est là, comment que ça va, Géliel? Bonjour, mon grand.
Hello Rixai, hello papy, ça va bien, en plus avec ce temps, on est aussi huileux que nos stars préférées, donc tout va bien, j'ai jamais été autant dans l'immersion, là je le sens.
C'est ça, entièrement en slip et huilé dans le studio, huilé à la sueur de notre front, dégouline, crassement, mais on n'est pas là pour parler de ça parce que c'est un peu dégueulasse, on va plutôt parler de SmackDown. Le nouveau SmackDown est arrivé, gros carton d'audience. On était à Greenville, Wellness Arena, South Carolina. Bon secours, Wellness Arena, tiens. Même. Il parle un peu français dans le coin, là-bas. Et on démarre avec, évidemment, un vidéo package sur SummerSlam. Hein, on nous rappelle les belles choses qui se sont passées. Arrive au building Roman Reigns et les Usos à l'extérieur du ring. Les stars sont là. Mais c'est bien Pat McAfee qui démarre les hostilités. Pat McAfee qui est au commentaire avec Michael Cole et qui nous rappelle qu'il a mis un bon coup de pied dans les roustons à Happy Corbin à SummerSlam pour terminer le match, hein, avant de gagner la victoire. Il nous explique un petit peu tout le déroulé, hein, de cette magnifique action où il profite que l'arbitre a le dos tourné pour mettre un bon low blow dans les valseuses de Corbin. Corbin, il est dans les backstage, il est en train de regarder le show, et il y a une bande de catcheurs, hein, qui se foutent de sa gueule, hein, tout ce que le vestiaire compte de low card, hein, et en particulier Ricochet, hein, qui se fout bien de sa gueule. Alors ça plaît pas à Corbin, qui lui lance un défi, hein, il dit: tu veux qu'on aille s'expliquer dehors? Ou plutôt dans le ring, hein, précisément. Et donc, sous les champs à la gloire de Pat McAfee, Ricochet accepte le challenge et on a un match entre Ricochet et le joyeux Corbin. Plutôt un beau match parce que Ricochet, il a le droit de dérouler dans tous les sens. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que c'est Ricochet qui gagne le match, si je ne dis pas de bêtises.
Oui, c'est ça.
Parce que Corbin, il doit être un petit peu déconcentré par Pat McAfee. Et du coup, victoire de Ricochet, qui aura pu dérouler un petit peu et gagner carrément le match face au pauvre Corbin. Il y a après Ricochet qui envoie un ballon à Pat McAfee, qui met une signature dessus, puis qui l'envoie dans le public. Comme la méga star qu'il est. Vous êtes tous fans de Pat McAfee et de Ricochet, donc je suppose que vous avez adoré ce segment d'entrée. Mon bon papy, dis-nous comment t'as vécu ce premier segment de l'ère Triple H de SmackDown.
Alors, dire que je suis un fan de Ricochet, c'est un peu compliqué, ça. Hein. Néanmoins, le match était plaisant, comme tu l'as dit, ils ont bien déroulé les deux. En plus, la dynamique, le petit face versus le gros méchant heel qui se fait avoir connement, c'est du pain béni pour le catch. Auparavant, on avait eu un segment micro de Pac McAfee, il nous a fait en fait l'analyse du coup de pied dans les boules de Corbin, un peu en mode analyste de sport américain, là, tu sais, avec le feutre là qui écrit sur l'écran en live. Donc ils arrêtent l'image, tu vois, qui fait les dessins, il te fait les trucs et tout. Bon, c'est typiquement culture américaine, ça, donc moi je trouve ça plutôt sympa.
Ouais,
c'était assez bien fait. En plus, c'était pas trop long, même si on a revu 40 fois le geste dans les burnes de Corbin, mais bon, c'est très bien que les balls, c'est un peu le sujet de prédilection du catch en ce moment à la WWE. Et Corbin est ultra ridicule. En plus, Corbin, il a vraiment la tronche du mec qu'on aime se voir se faire humilier. Il est toujours parfait dans ce rôle-là, avec ses yeux de chien battu. Et puis, bah, mine de rien, il est toujours fort dans le ring. C'est toujours ça qui est impressionnant avec lui, c'est qu'il est toujours présenté fort dans le ring. Et là, là, il perd vraiment son déconcentration. Il est en, il domine encore une grosse partie du match. Puis, bah, il est filouté. Et puis, bah, Ricochet repart avec la victoire. C'est gagnant, 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 j'ai envie de dire, cette affaire-là. Ils ont du temps d'antenne. Corbin est toujours fort. Il se fait avoir. Mais bon, il est toujours un élément central de SmackDown. Et Ricochet redémarre un peu avec une victoire après qu'il se fait enterrer par Gunther. Donc, bon segment d'intro dynamique et tout le monde en sort plutôt gagnant, je trouve.
Ouais, gagnant, gagnant, gagnant. Géliel, est-ce que tu te rejoins à cette analyse ou est-ce que tu as des réserves ?
Non, non, je rejoins l'analyse. L'intro était vraiment sympa. Reminder SummerSlam, on va pas mal en voir aussi. Alors je prends le rôle s'il faut, hein, je me dévoue, je prends le rôle de l'amateur de Ricochet. Non, j'avoue, j'aime bien Corbin effectivement délivre. Alors on sent quand même qu'il y a une espèce de plafond de verre, mais n'empêche qu'il a quand même aussi un certain talent avéré pour pas faire de match complètement foireux. Hein. Ça c'est quand même, ça reste une valeur sûre et ça c'est à noter. Ouais, McAfee avec le ballon derrière dans les tribunes, bonne petite intro, très entertainment, très effectivement à l'américaine. J'ai bien aimé et puis surtout Ricochet gagne, donc j'ai encore plus bien aimé. Voilà.
Ouais, difficile d'avoir des réserves effectivement sur cette entrée de show où tout fonctionne plutôt admirablement. Ensuite, on a un petit récap de la victoire de Liv Morgan sur Ronda Rousey. On apprend que, du moins, on nous mentionne hein, que Ronda Rousey est suspendue puisque après le match, elle a frappé l'arbitre, hein. L'arbitre qui avait donné la victoire à Liv Morgan, qui a fait a réussi à faire un tombé sur Ronda Rousey qui était en train de lui porter une prise de soumission. Le compte de 3 a été fait parce que les épaules de Ronda Rousey étaient au sol, mais avant le décompte de 3, Liv Morgan avait tapé. Elle avait abandonné, mais l'arbitre n'a rien vu. Donc, c'est la victoire qui a été donnée à Liv Morgan, qui est restée championne, qui conserve face à l'immense Ronda Rousey. Ça ne s'appelait pas à Ronda Rousey quand même, qui ne comprend pas et a bien molesté l'arbitre. Et donc, on apprend que Ronda est suspendue, qui laisse la voie libre pour Liv Morgan. Et ce soir, on aura un gauntlet match pour déterminer la nouvelle challengeuse number one. Mais dans les vestiaires, plus important, Sami Zayn essaye de rencontrer Roman Reigns. Hein, on sait qu'il est le bloodline honoraire, Sami Zayn, mais il se fait un peu recaler hein, par les deux Usos qui tiennent la porte. Hein. Alors il y a Jay qui le regarde comme s'il allait lui ouvrir les tripes.
Le buter, ouais.
Mais de l'autre côté, il y a Jimmy qui temporise, hein, qui dit à Sami, écoute, là, c'est pas le moment, je te texte dès que c'est possible. Va essayer de t'occuper de ce que fait habituellement Paul Heyman, parce que Paul Heyman n'est pas là, hein, il a été blessé à SummerSlam, il s'est pris un F5 quand même de Brock Lesnar. Donc il lui dit, tu sais, d'habitude, Paul Heyman, il va s'occuper dans les backstage, là, au niveau du camion de régie, que tout soit tip-top pour quand Roman débarque au ring, donc ça serait bien que tu ailles t'occuper de ça et tout. Et donc, Sami Zayn, il accepte. Et un peu à contre-cœur, hein, parce que lui, il voulait parler avec Roman Reigns, mais pour l'instant, il est renvoyé à une petite mission pour le beau Roman. On en reparlera un petit peu plus tard de tout ça. En attendant, c'est Shinsuke Nakamura qui fait son entrée. On a un petit flashback sur Stone Cold Steve Austin qui avait détruit le buste de la famille McMahon. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse plutôt, c'est le match qui oppose Nakamura à Ludwig Kaiser. 8 minutes 44, tiens, figurez-vous. Ludwig Kaiser, toujours accompagné du champion intercontinental Gunther. C'est Kaiser hein, qui est un peu la porte à franchir pour que Nakamura réussisse à décrocher un match pour le titre. Et ça se bat très bien hein, entre Nakamura et Kaiser. Mais évidemment, c'est Nakamura qui va gagner le match. Il va placer le Kaiser dans un armbar. Il va réussir à s'en sortir. Kaiser, mais il va se prendre le Kinshasa dans la gueule. Et donc après, on a un face-à-face entre Nakamura et Gunther. Donc voilà, Nakamura vient de se gagner un match pour le titre intercontinental aux dépens du pauvre Ludwig Kaiser qui va sûrement encore se faire molester cette semaine. Alors rien de transcendant, c'est un peu la suite des opérations. Qu'est-ce que t'en as pensé, mon bon Géliel, de tout ça?
C'était un match de bonne tenue. Dès que Shinsuke Nakamura se sort un peu les doigts, et qu'il y a un peu de dynamisme, il n'y a pas à tortiller, ça reste quand même qu'elle est une valeur sûre et il fait des choses intéressantes. Ludwig Kaiser en rôle de tampon entre Gunther et Nakamura, je trouve qu'il a bien fait il a bien joué le jeu, le match était équilibré. Alors évidemment Nakamura a gagné à la fin et c'était le sens de l'histoire et personne n'est vraiment surpris. J'ai bien aimé jusqu'au Kinshasa final dans la tronche de Ludwig Kaiser, comme tu dis. Plus le face à face qui nous annonce une feud intéressante, d'autant que je suis vraiment partagé quoi. Est-ce qu'on va continuer le push de Gunther? Est-ce que Shinsuke Nakamura qui se remet un petit peu au catch va mériter un peu plus? Je sais pas. Du coup c'est assez ouvert et finalement ça me plaît assez bien. En plus c'est des styles vraiment complètement différents avec l'espèce de tank autricho-austro-allemand, enfin comme on veut, et puis Nakamura. Donc on y est, on est à ce match, on est à ce match de championnat. Donc j'ai hâte de voir ça, ça me plaît pour le moment.
Ouais, alors j'espère juste qu'ils vont garder le match pour Clash of the Castle et qu'on aura un gros match Nakamura-Gunther.
Perdu.
Ah bon, c'est la semaine prochaine?
Oui, c'est la semaine prochaine.
C'est déjà annoncé.
Après, maintenant, ils nous balancent des gros matchs en weekly. Le tout, c'est il laisse catcher Nakamura face à Gunther. Pour moi, ça peut être un très, très gros match.
On s'est quand même souvent plaint que les titres intermédiaires, soit ils n'étaient pas suffisamment joués en pay-per-view, soit on ne les voyait jamais. Que ça puisse être quelque chose qui devienne peut-être un peu plus fréquent en weekly, qui redonne un peu de peps, du coup, à ces weekly.
Ouais.
Finalement, je trouve pas ça si mal, quoi.
Ouais, non, clairement. Hein. Est-ce que c'est ta vie, mon papy?
Ouais, j'étais perdu dans mes pensées. Du coup, la cible, que le titre intercontinental soit défendu, Gunther Nakamura, pourquoi pas, même si je pense... On va dire que Nakamura, c'est un premier adversaire, mais je pense pas que ce soit un adversaire suffisant pour créer une legacy de Gunther sur ce titre intercontinental. Ce sera mieux d'avoir un adversaire soit plus résistant, soit plus représentatif peut-être de l'idéal américain versus l'envahisseur, le gentil envahisseur allemand, autrichien. Enfin bref, on a bien compris l'esprit. Sur ce match-là, j'ai pas trop. Il était nécessaire parce qu'en fait Nakamura restait sur une défaite contre Kaiser. J'ai pas trop compris en fait l'intérêt finalement de le faire perdre une semaine contre Kaiser puis gagner la suivante, hormis rallonger un peu la sauce. C'est bien qu'il affronte Gunther assez rapidement derrière parce que je trouvais que pour l'instant en fait il n'avait pas grand chose à raconter en fait, hormis que Gunther martyrisait son aide de camp. Mais donc c'est pas plus mal qu'ils enchaînent vite sur le titre intercontinental en jeu.
Ouais, ça avance vite. On dirait qu'ils ont décidé de refaire l'histoire une deuxième fois parce qu'ils étaient pas contents de la première manière dont ils l'avaient faite. Je pense que c'est quand même deux gros projets de Triple H, mine de rien, Gunther et Nakamura, donc il y a peut-être possibilité qu'ils nous construisent quelque chose d'un peu plus conséquent que ce qu'on a eu cette dernière semaine, où c'était quand même... même si on était content d'avoir un push de Gunther et de le voir champion, c'était qu'on était quand même en bas de carte. Alors, on est encore en bas de carte, mais s'ils occupent de plus en plus...
Ça remonte un petit peu, là, avec Nakamura.
Voilà, c'est ça. Si on leur donne plus de temps, si, pourquoi pas même jouer à la patate chaude avec la ceinture, histoire de faire monter la rivalité, on va bien voir ce que ça donnera. L'important, c'est de laisser catcher Nakamura un petit peu et de laisser catcher Gunther, parce que leur grand intérêt aux deux, c'est leur catch. Hein, donc, il faut les laisser s'exprimer dans le ring et on aura peut-être quelque chose d'assez sympa à suivre dans les weekly. Donc, on va croiser les doigts pour la semaine prochaine. Normalement, les deux s'inscrivent dans le délire de Triple H, hein, de toute façon, Nakamura et Gunther. Nakamura, c'était quand même un ancien champion NXT. Gunther, c'était le fer de lance de NXT UK. Tout ça, c'est des projets de Hunter. Hein, donc, il n'y a pas de raison qu'il les enterre dans les semaines qui viennent. Donc, je pense qu'on pourra compter sur une belle prestation des deux. On reste dans les projets de Triple H, puisque les Viking Raiders sont toujours là. Et on nous rappelle qu'ils ont botté le cul du New Day hein, depuis plusieurs semaines, au point même d'envoyer Xavier Woods à l'hôpital. On aura une revanche ce soir entre les deux. Megan Morant interview d'ailleurs Kofi Kingston. Il est seul ce soir. Mais bon, il a plus trop l'habitude. Mais bon, ce soir, il va prouver qu'il est quand même le plus costaud et il va avoir sa revanche pour Xavier Woods. Et donc, plus tard, on aura un match de Kofi contre Eric, mais c'est pas pour tout de suite, puisque là, on revient sur Sami Zayn, qui toque à nouveau à la porte de la Bloodline. Il dit qu'il a pas reçu de texto hein, de personne. Il veut absolument parler à Roman. Donc là, il y a les Ouzo qui sortent. On essaie de le calmer. Et puis on le renvoie encore à ses petits truchements.
Il y va.
Voilà. C'est comme ça pour le fil rouge de l'émission, hein, un petit peu avec Sami Zayn. On y reviendra un peu plus tard. Kayla Braxton interview Liv Morgan. On nous rappelle un petit peu la victoire controversée face à Ronda Rousey. Elle a le bras en écharpe aussi, Liv Morgan. Et elle explique qu'elle a tapé parce qu'elle pensait que le compte de 3 était fait déjà. Les gens l'a eu, c'est normal. Mmh. Et là-dessus, il y a Sonya Deville qui débarque et qui dit tu mérites pas d'être championne, c'est moi qui mérite d'être championne. Et d'ailleurs, je vais gagner le gauntlet match ce soir. Car comme je vous l'ai dit, ce soir, il y a un gauntlet match. C'est la fête. Il y a Aliyah qui débarque pour affronter Sonya Deville. Hein, c'est le match qui débarque le gauntlet. En 2 minutes 20, elle se fait rétamer par Sonya Deville.
Ensuite, 2 minutes 20
2 minutes
20. Ça m'a semblé 20 secondes. Hein.
Ouais, et ben c'était un peu plus long que ça. C'est peut-être même le plus long match du gauntlet. Puisque ensuite, c'est Raquel Rodriguez qui arrive. Et qui va exploser Sonya Deville en 2 minutes 04 avec sa Texas Powerbomb, là. Ensuite, Raquel Rodriguez est face à Chozzi. Elle va mettre 1 minute 20 à s'en débarrasser. Avec une Powerbomb aussi.
Il n'y a pas eu que du beau, là, en plus.
Ah non, c'était pas le top du top. C'est ensuite Xiali qui débarque 2 minutes 27 pour se faire démonter, toujours par Raquel qui est en grande forme, hein, encore une powerbomb pour se débarrasser de Xiali. Ensuite, c'est Natalia qui s'y colle 2 minutes 22 de tentative de sharpshooter et compagnie, mais elle se fait quand même rétamer avec une powerbomb. Donc Raquel Rodriguez, il ne lui reste plus qu'une adversaire à vaincre pour payer un title shot, c'est Shayna Baszler qui arrive et qui met 3 minutes 04 à battre Raquel Rodriguez. Je crois qu'elle l'endort avec sa prise de finition plutôt.
Non, j'ai pas un tombé. Attends, je suis bu.
Non, c'est un roll-up.
Ouais, enfin, oui.
Il y a une longue prise, effectivement. C'est quoi, ouais. Curryfuda Clutch, c'est ça, hein.
Voilà, le Curryfuda Clutch pendant un bon moment. Rodriguez arrive à s'en défaire, mais Shayna Baszler réussit à la rechoper en roll-up. Et comme elle est diminuée, Raquel Rodriguez, hein, qu'elle a quand même.
Elle a mal aux jambes.
Ça fait près de 5 minutes qu'elle est dans le ring. C'est Shayna Baszler qui gagne, et c'est donc Shayna Baszler qui ira affronter Liv Morgan à Clash at the Castle. Il y aura un petit face-à-face entre Baszler et Morgan, la championne. Voilà un grand moment de catch, papy.
Un grand moment de catch, un grand moment où on s'est souvenu qu'à une époque il y avait une division féminine et que maintenant il y a ça.
Voilà.
Alors on va commencer dans l'ordre. D'abord, pour moi, ce qui est le pire, en fait, finalement, de cette séquence, c'est le passage micro de Liv Morgan qui est cataclysmique. Déjà, elle entre. Alors là, et c'est pas que de sa faute. Hein. Je vais tout de suite. Julien, ne me saute pas dessus. Je vais un petit peu la défendre, la pauvre Liv. Alors, elle arrive déjà. Elle reste sur une victoire moisie à SummerSlam où clairement on a compris qu'elle était moins forte et qu'elle gagnait par chance. Donc ça, c'est un peu le contexte. Là-dessus, elle arrive en disant que oui, mais non, mais en fait, c'est pas ma faute. Hein. Je croyais qu'il y avait eu. Qu'il y avait eu 3, donc c'est pour ça que j'ai tapé. Alors là, l'excuse la plus bidon du monde. Donc forcément, le public lui tombe dessus et plus elle argumente, plus elle s'enfonce en fait dans son truc. Donc elle est vraiment pas du tout aidée et par le contexte de SummerSlam et par le discours qu'on lui a donné. Et là-dessus en plus, alors le public l'entendait pas, mais nous on l'a entendu. T'avais Michael Cole et Pat McAfee qui ont commencé à faire des commentaires de type le public est un peu dur avec Liv parce que franchement elle est méritante hein. Alors, on entend comme des gens qui l'encouragent Liv, voilà, ça c'est les vrais fans là. Enfin bref, un truc affreux qui et je ne sais pas s'ils ont je me rends pas compte à quel point c'est, est-ce que ils veulent vraiment nous énerver en faisant un mode de Bo Dallas avec un champion qui est complètement délusionnel et puis qui pense qu'on le soutient et que en fait plus ça avance plus personne ne peut la piffrer, ou est-ce qu'ils peuvent vraiment pouvoir la sauver avec des arguments pareils qui sont catastrophiques, je trouve. Et la pauvre Liv, franchement, elle n'a pas été aidée par WWE là-dessus. Elle n'est déjà pas de base un personnage facile, je pense, à avoir du soutien parce qu'elle est trop faible, clairement trop faible dans le ring. Et là, en plus, avec un tel booking et un tel segment micro écrit, je pense qu'ils font pire que mieux, en fait, et qu'ils l'enfoncent, la Liv. Et là, elle est championne depuis trois semaines, peut-être un mois, et elle a déjà perdu le public, quoi. C'est terrible pour elle. Enfin bref, voilà. Et là-dessus, on a sa future adversaire qui vient à l'issue d'un gauntlet affreux, où il n'y a pas eu un match bon dans le lot. Comme tu as dit, que des matchs courts. Et puis, c'est Shayna Baszler. Je pense que par défaut, c'était peut-être le meilleur choix, parce que c'était la seule qui avait un tant soit peu de passer fort, mais même ça remonte à loin maintenant, donc c'est compliqué, ça fait une espèce de sous Ronda Rousey, donc quelqu'un d'autre qui va essayer de faire abandonner Liv Morgan. C'est un choix par défaut, j'ai l'impression, et en plus celui-là on va l'avoir à Clash at the Castle, Liv Morgan versus Shayna Baszler, mesdames et messieurs. Attention les yeux, franchement moi je ne sais pas quoi dire. De plus.
Ouais. Il va falloir se le farcir, hein, ce match-là. Géliel, toi, tu es un grand défenseur de Liv Morgan, tu vois.
Ouais, je suis un grand défenseur lucide de Liv Morgan, quand même. j'ai toujours eu le même avis sur Liv Morgan, c'est-à-dire qu'elle part d'encore plus loin que ce qu'on voit aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier quand même.
Ouais.
Et moi, c'est plutôt la progression qu'on a quand même pu observer sur certains trucs. Je l'ai déjà dit, effectivement, elle manque de puissance, effectivement, il y a des choses qui ne vont pas et le plafond de verre, il est encore plus bas que d'autres. N'empêche qu'elle a tenté des trucs. Elle a peut-être dû certaines fois les tenter plus longtemps à l'entraînement. Bon, mais bref. Mais en tout cas, moi c'est plutôt l'effort, la progression que j'apprécie. Maintenant, plusieurs choses sur le Gauntlet Match en tant que tel, c'est une stipulation que j'apprécie généralement parce que ça permet de construire des trucs sur la durée du match et puis. Il y a globalement toujours des histoires dans l'histoire qui se racontent ou qui se mettent en place. Donc moi, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Évidemment, Raquel Rodriguez est montrée ultra forte puisqu'elle en bat 4 avant de se faire éliminer. Pourquoi pas. Mais pourquoi pas aller non plus complètement au bout du truc. Mais après, il y a d'autres choses qui peuvent s'imaginer. Shayna Baszler qui arrive. Alors moi, je suis toujours nostalgique de son premier run qu'elle avait fait. C'était un quoi comme où elle avait démonté tout le monde
elle a tué les cinq dans sa chambre.
Voilà, c'est ça. Et donc où il y avait eu un push incroyable et puis mérité et puis il y avait un vrai personnage badass qui était associé.
Ouais, la prolongation de son personnage NXT en fait, hein, où elle était championne hyper dominante et
c'est ça.
Où elle a fait taper plus d'une personne. Hein.
Sauf que ça n'a pas duré et donc du coup je suis vu qu'on l'a plus jamais revu dans des trucs intéressants derrière, je sais, enfin, elle mérite pas globalement là tout de suite maintenant, vu qu'elle a, elle sort de pas grand chose, d'aller chercher ce titre-là. Mais en même temps, je sais pas. Du coup, de quoi?
Qui d'autre on aurait mis?
Bah, Raquel Rodriguez, mais ça faisait un peu rapide, quoi.
Ouais.
Mais,
ça babyface contre babyface, ça va pas. À moins de vraiment tourner heel.
Ouais, tu passes heel live.
Mais
ouais, ouais.
Enfin, mais comme tu dis, ça fait un peu tôt pour.
Ouais, rapide sur la ceinture,
un turn pour Liv Morgan.
Et puis ça fait deux filles qui sont pas encore au top niveau face à face là. Enfin,
ouais, bah,
c'est encore plus dangereux quoi.
Y a pas de ring general,
donc du coup sur le gauntlet match, moi je suis assez j'aime la stipulation, mais je l'ai pas trouvé très bien, pas très bien réalisé. Ça manquait quand même que ce soit Shotzi ou que ce soit Alia, c'est quand même de la low card quoi. Puis ça a botché dans tous les sens. Et puis au final le résultat il aurait pu être satisfaisant, mais si Shayna Baszler en avait gagné 3-4 de matchs, histoire de la mettre un peu plus forte que juste la dernière où elle bat effectivement la plus forte, mais qui est quand même faite par les 5 combats précédents quoi. Donc je sais pas. Et puis alors ce que ça va donner du coup avec Shayna Baszler contre Liv Morgan, je sais même pas si j'ai vraiment envie de le voir le truc. Je sais même pas si ça me tease pas beaucoup quoi. Vraiment.
Ouais, ils auraient peut-être dû partir sur une triple frite ou un truc comme ça, tant qu'à faire, parce que là, on a assez difficile de swiper pour un Baszler Morgan.
Mais ça, c'est une bonne idée, hein, que dans les semaines qui arrivent, là, ils nous construisent un truc où il y en a une qui se rajoute, quoi.
Ouais.
Là, ça pourrait être sympa.
Ouais, voilà, histoire d'avoir un peu plus de... de trucs pour un peu plus affriolants, hein, quoi, que juste Shayna Baszler contre Liv Morgan. Ça vend pas du rêve, surtout que comme vous l'avez expliqué, elle revient de très très loin, là, Shayna Baszler. Voilà, elle a fait le gros de sa carrière dans le main roster, elle était en équipe avec Nia Jax. Et pas de quoi s'emballer. Voilà, ils ont complètement loupé son booking depuis qu'elle est arrivée dans le main roster, hormis effectivement le coup d'éclat de l'Elimination Chamber où elle se casse les dents sur Becky Lynch.
Ouais, mais qui commence à dater en plus, quoi.
Qui commence à dater, puisque là ça remonte à 3-4 ans maintenant.
Après, est-ce que c'est pas Triple H qui veut relancer un projet qu'il avait réussi à NXT?
Ouais, à mon avis, il va redonner sa chance à tous ceux qui viennent d'NXT, hein,
ouais.
Tout doucement, et puis on verra bien. Là où ça accroche, là ça accroche pas quoi. Mais est-ce qu'il y en a qui peuvent revenir du booking qu'ils ont enduré dans le main roster? Ça c'est une bonne question. Est-ce que le booking de NXT fonctionne dans le main roster?
Ça c'est la plus grande question surtout. Je pense que tout le monde peut revenir, mais est-ce que forcément ils avaient les bonnes recettes à l'époque pour du main roster? Ça c'est une grande question. Hein.
Ouais. Ça va être la big question qui va déjà impacter Ricochet, parce que c'est bien beau d'avoir une victoire contre Baron Corbin, mais tant qu'il n'a pas de personnalité, ben ça va être délicat pour lui. Voilà, Baszler, si on ne la construit pas comme quelqu'un d'hyper dangereux, ce n'est pas son catch qui va nous éblouir, quoi. Nous, ce qu'on veut, c'est l'avoir torturé des gens, les faire taper. Voilà, le reste.
Enfin, je trouve même qu'en termes de catch, elle a régressé, quoi.
Ouais, carrément. Ouais.
Je trouve qu'elle est quand même un peu moins en forme que ce qu'elle a pu être quand elle est arrivée. Du coup, ça se sent sur le sa rapidité, la manière dont elle porte les coups, c'est devenu vachement stéréotypé. Je suis très très circonspect par rapport à ce push-là, si push il doit y avoir quoi.
Ouais. Ça va être la même histoire qu'avec Nakamura aussi et Gunther, c'est voir si on la laisse catcher et faire son catch quoi, plutôt que d'essayer d'en faire une catcheuse standard. Puis après Liv Morgan effectivement qui en galère face au public. C'est, alors moi j'ai trouvé que le résultat de SummerSlam, le final du match, c'était plutôt intelligent, mais c'est un classique. Mais effectivement derrière sortir une phrase du style j'ai tapé parce que je croyais qu'il y avait eu le compte de 3, difficile d'adhérer quand même, hein.
Donc, c'est mauvais.
On verra bien, la suite pour Liv Morgan. Il va falloir qu'elle se remette de ça. Après, je pense que quand même, le plafond de verre, il est toujours là pour Liv Morgan. Alors, elle est championne. Je pense que ça ira pas beaucoup plus loin que ça, malheureusement pour elle. C'est déjà un très bel accomplissement. Je veux dire, il y a pas plus bel accomplissement que ça dans sa carrière. Donc, elle a rien à faire.
C'est une défense de titre. Voilà.
Maintenant, si elle arrivait à nous faire mentir en faisant un super match contre Shayna Baszler,
je serais le premier heureux si jamais elle arrive à nous faire mentir, mais là, je pense qu'on est déjà sur la pente descendante pour elle, malheureusement.
Ouais. Donc ça, à voir ce que le futur réserve à Liv Morgan. Dans l'immédiat, on espère que son règne ne durera pas trop longtemps, mais allez, on peut nous surprendre encore, donc on garde espoir. on garde espoir comme Sami Zayn, toujours dans les vestiaires, à vouloir rencontrer Roman Reigns. Donc là, bah, il a fait toutes les missions qu'on lui a données. Hein, donc, il veut rentrer, mais les Ouzo lui disent non, pour l'instant, tu peux pas. Alors, Zayn, il finit par s'énerver, hein, il est trop frustré, il commence à gueuler comme ça. Dites donc, vous savez qui je suis, tout ça. Et là, bah, c'est Jimmy Uso hein, qui finit par s'énerver, il lui dit non, tu fermes ta gueule.
C'est Jay.
C'est Jay, pardon, oui, qui l'engueule carrément. Hein, il lui dit soit tu dégages, soit t'enlèves ton t-shirt et fais gaffe à ta gueule parce que ça va mal se passer, quoi. Donc là, Sami Zayn, il se calme et c'est fini pour sa tentative de venir voir Roman Reigns. Une humiliation de plus pour Sami Zayn. Vas-y, papy.
J'allais dire, c'est finalement, j'ai trouvé que ce truc était assez léger finalement, parce que ça nous a occupé, fait un espèce de mini fil rouge pendant tout, fil bleu plutôt, pendant tout l'épisode, mais au final, t'avances pas beaucoup plus que ce que t'étais jusque là. T'as une petite humiliation de Sami Zayn. Je pense que ça peut être sympa si c'est le début de quelque chose. Par contre, si c'était juste comme ça pour nous occuper, c'est un petit peu dommage, je trouve, comme de. Parce que c'était ça nous aura occupé de toutes les missions, mais au final, ils n'ont pas énormément avancé entre le point A et le point B, quoi.
Ouais, la finalité n'est pas pour cette semaine, j'ai l'impression. Mais ça pose encore des bases pour la suite. Qu'est-ce qui va arriver entre Sami Zayn et la Bloodline ?
C'est quand même un peu à sens unique en ce moment. Hein.
C'est un loser, Sami Zayn, hein, dans cette histoire qui se fait. Il se fait bien humilier. Mais bon, je trouvais que c'était bien foutu, moi, quand même, les petits segments, là. En particulier, Jey Uso, hein, qui tirait la gueule du long à débit en envoyant des regards de tueur, là, à Sami Zayn. J'ai trouvé ça plutôt cool. Ensuite, on a les Viking Raiders, qui affrontent deux jobbers. Tiens, depuis le temps qu'on n'avait pas vu des jobbers, en voilà des vrais, Tommy Gibson et Jim Mulkey. Qui se font défaire, démonter, tout ce que vous
défoncer,
voulez.
Ouais.
Défoncer, hein, en 1 minute 31. Alors, c'est des vrais jobbers de chez jobbers, hein, c'est pas comme à la All Elite Wrestling où les jobbers sont plus musclés que les catcheurs. Des bons jobbers du quartier. Ils se font donc démonter par les Viking Raiders. Et après le match, qui c'est qui débarque ? Kofi Kingston avec un kendo stick. Il commence à frapper sur les Viking Raiders, là, leur taper dessus, tac, tac, boum, bam. Il y a des Kofi chants comme à la belle époque, c'est la Kofi Mania. Et après, on a un match entre Kofi Kingston et Eric. Et Kofi Kingston va réussir à vaincre Eric en 3 minutes 45. C'est un match qui sera bien disputé hein, quand même. Il y aura des gros coups de Eric là, notamment une full Nelson qui est transformée en coup de genou dans la face. Il y aura un petit peu tout le déroulé de Kofi Kingston, hein, le fall dive, etc. Il y aura un petit roll-up de Kofi Kingston sur ce bon vieux Eric pour la victoire. Hein. Une victoire de justesse quand même de Kofi Kingston face au puissant Eric. Mais une victoire quand même. Est-ce qu'on finit par être pris dans cette rivalité entre les Viking Raiders et les New Day qui est complètement décimé hein, puisqu'il ne reste plus que Kofi Kingston cette semaine. Géliel, qu'est-ce que tu en penses ?
Il m'en manque pour m'entertainer sur ce sujet. Parce déjà, ouais, il me manque un truc parce que déjà je sais que certains le sont parmi la team catch-up, mais j'arrive pas à être emballé déjà par les Viking Raiders qui font des choses parfois vraiment étonnantes et très sympas, hein, mais je sais pas, il y a un côté vieux catch des années 90 avec les cordes et tout ça qui rend un peu nostalgique, mais pas plus. Voilà. Et du coup, j'arrive pas à être emballé, je vois pas la performance, mais ça vient de moi, hein, parce qu'ils sont assez appréciés, donc ça doit venir de moi. Mmh. Et du coup, avec juste Kofi qui est là pour représenter le New Day, je trouve que ça, voilà, ça m'a pas embarqué ce coup-ci. On va voir ce que ça donne, mais effectivement, victoire un peu volée, enfin, remportée de justesse par Kofi, donc ça veut dire qu'il va y avoir une suite. Mmh. Mais voilà. Je suis pas particulièrement emballé par cette feud entre les New Day ou alors juste Kofi Kingston des Viking Raiders.
Ouais, on aura notre match revanche, je pense, entre le New Day et les Viking Raiders. Je te rejoins un peu, hein, moi, les Viking Raiders, je pense qu'ils sont un peu surcotés. Je pense qu'on en a un peu fait le tour de l'équipe. Je ne sais pas ce qu'ils peuvent apporter de plus. Ils ont déjà été champions. Leur gimmick, ben là, on a testé en face pendant un moment. Maintenant, on est en heel. Après, une fois qu'on aura fait ces deux trucs-là, il n'y aura plus grand-chose à en tirer. Je sais pas, est-ce qu'ils vont battre le New Day mais après quoi, ils vont devoir aller affronter les Usos, ça tient pas trop la route, je ne sais pas. Est-ce que Papy est plus convaincu?
Bah, ni par l'un ni par l'autre en fait. les Viking Raiders, je pense, c'est pas tant qu'en fait leur personnage ou leur style ou quoi que ce soit me gêne. C'est juste que, bah, comme vous l'avez dit, on les a déjà vus par le passé. Et en plus, là, il n'y a même plus vraiment de ceinture champion du monde, puisque bah,
ouais.
Les Usos, ils les défendent pas à SmackDown, ils les défendent juste contre les Street Profits une fois de temps en temps. Donc, il n'y a même plus de breloques à gagner, quoi. Donc, ça aurait été intéressant dans une division tag team qui est vivante avec des matchs, des tournois, des machins, des trucs, des challengers, d'avoir les Viking Raiders, je pense, ils pourraient toujours tirer leur épingle du jeu, mais là, dans une division tag team qui n'existe plus, bah, du coup, bah, eux, ils perdent encore plus d'intérêt, quoi. Et quant à le New Day, bah, Kofi en solo là, alors, à noter comme que Kofi a une des meilleures pop de la soirée, donc il reste quelqu'un d'ultra soutenu, ça, c'est quand même quelque chose à noter, hein. Par contre, l'histoire du membre du New Day tout seul, bah, c'est quand même ce qu'on a eu depuis le début d'année, hein, avec, c'était contre Sheamus et ses copains à l'époque. Les New Day en infériorité numérique, ça rebelote maintenant, donc on attend qu'un des membres du New Day vienne compléter pour aider Kofi à se défendre. Moi, je sais pas pourquoi je pense que c'est Biggie, ça sera peut-être pas Biggie, mais on verra, mais j'imagine bien Biggie. Mais bon, c'est pas du tout une histoire intéressante puisqu'elle est vue et revue et revue quoi.
Ouais. Bah, il faut dire que le New Day aussi, ça a fait son temps peut-être. Hein. Je veux dire.
Peut-être aussi.
On les aime bien, mais ça fait longtemps qu'ils sont là. Moi, j'ai déjà dit, je le redis. Moi, je veux voir Xavier Woods en solo. Après, c'est délicat parce que je pense qu'aucun des trois n'a envie de briser le trio, puisque ça leur apporte trop de pognon, je pense, au niveau du merchandising. Donc, j'ai peur qu'on soit bloqué à ce niveau, au niveau du New Day. Mais je trouve qu'on pourrait exploiter encore plus de potentiel en les faisant partir chacun en solo. Enfin, du moins, une fois que Biggie sera revenu de blessure. Ouais. Et je ne sais pas où est Xavier Woods, je suppose qu'il est blessé aussi, peut-être.
C'est dommage parce que là, il y avait quand même des opportunités à saisir. La blessure de Biggie, le King.
Ouais, King Xavier.
King Xavier.
Ça, c'est un gros loupé, c'est dommage. Hein.
Ouais.
Parce que franchement, c'était là, quoi.
Ouais, ça fonctionnait en plus. Hein,
en plus, ça marchait hyper bien, hein, franchement.
Ils ont fait marche arrière. Ça restera un des gros regrets. Donc, ouais, je sais pas. Le New Day, est-ce qu'ils vont finir par démanteler l'équipe ou pas? Moi, j'ai peur que, comme je disais, hein, qu'ils persévèrent simplement à cause du merchandising. Quoi. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Mais ce qui est bien dommage aussi, c'est le retour des ceintures tag team pour les femmes. On nous annonce un tournoi. Et oui, vous aimez le catch, vous aimez les femmes, vous aimez les équipes, vous aimerez les femmes en équipe dans un tournoi qui commencera lundi. Les fans ont popé, d'après le Wrestling Observer.
Le Wrestling Observer ment.
Ment. Les fans n'ont pas du tout popé. Personne n'en a rien à foutre de ces deux ceintures à la con. Mais bon, on va se coltiner ça à Monday Night Raw et dans les semaines qui viennent. Est-ce qu'on donne déjà nos favorites ou pas? On s'en fout.
Ouf, non.
Bah, les filles seront annoncées à Raw, donc on va attendre. Laisser les gens qui parleront de Raw parler de ça.
Démerdez-vous avec ça. voilà, les ceintures tag team.
La perche est tendue quand même.
Voilà. Sachez que les ceintures ne sont pas mortes. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Roman Reigns débarque au ring avec les Usos. C'est l'heure de votre main event, les enfants. Alors, Roman Reigns, il vient parler de Drew McIntyre, hein, tout simplement. Hein. Il dit, bon, ben, Drew McIntyre, t'es nul, je vais te battre. Là-dessus, il y a Ben évidemment, Drew McIntyre qui débarque. Et il dit, ben, t'es nul, Roman Reigns, c'est moi qui vais te battre.
Toi d'abord.
Voilà,
d'abord. Pas beau.
C'est pas beau du tout. Alors on dit, tout ça est bien mal embarqué, quand soudain, une musique retentit. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? C'est la musique de Karrion Kross. Karrion Kross qui débarque, qui attaque Drew McIntyre. Karrion Kross avec des cheveux. Il envoie Drew McIntyre dans les escaliers de fer. Il lui met un gros coup de coude derrière la nuque. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a Scarlett qui est là aussi et qui vient déposer un sablier sur le ring face à Roman Reigns. Karrion Kross toise Roman Reigns et il tapote sur sa montre, hein, et lui dit le temps passe pour toi. Tic-toc, tic-toc. La surprise de la soirée, n'en jetez plus, la coupe est pleine. Karrion Kross est de retour, l'ancien champion de NXT. Est-ce que tu étais sur le cul, mon bon papy?
Sur le cul, non. Surpris, poliment surpris, on va dire. Un peu comme le public, d'ailleurs. Poliment surpris. Encore que moi, contrairement au public, j'ai reconnu la musique. Parce que quand la musique s'est déclenchée, je dis ah tiens, Karrion Kross. Ouais. Le public, quand la musique s'est déclenchée, s'est dit ah tiens, de la musique qui se déclenche. Ding. Aucune idée de qui c'était. Scarlett, aucune idée de qui c'était. Karrion Kross avec son cheveu, on s'en fout, personne ne sait qui c'est. Le sablier pareil, TikTok, on s'en fout, personne ne sait qui c'est. Personne ne connaît donc cette facette de Karrion Kross qui était en fait son personnage de NXT.
Ouais.
Le TikTok, le sablier, Scarlett, tout le bordel. C'était d'ailleurs sa musique de NXT et son titantron de NXT. Mais j'étais un des seuls à regarder manifestement, puisque personne n'a absolument popé pour ce truc-là. Autant pour ça, c'est des gars que après Dakota Kai, Triple H reprend un de ses anciens sur qui il avait misé et qui avait été pour le coup, j'avoue, saccagé par Vince quand il était monté dans le main roster. Bisouté. avec sa tenue gladiateur là, SM, c'était assez violent, je l'avoue pour le coup. Ouais, ouais. Je trouve qu'il avait déjà commencé à baisser de niveau à la fin d'NXT, Karrion Kross, mais là en plus on l'avait complètement cramé dans le main roster. Donc il va retenter le coup dans le main roster. Bah, j'espère pour lui qu'il va avoir un nouveau feu sacré, Karrion Kross, parce qu'en plus dans le main roster, et ça sera plus du tout lui le plus grand, parce que NXT est entouré de nains, là il va se retrouver avec des mecs qui font 2 mètres de haut, ça va lui changer un peu. Je lui souhaite tout le bonheur du monde à ce Kyrion. Moi qui me plaignais d'avoir que des nains à Raw, au moins j'ai un gars qui est un poil plus balèze à SmackDown. Néanmoins, je lui souhaite aussi bon courage, hein, parce que c'est pas forcément gagné d'avance.
Gros coup de poker là de Triple H qui annonçait que les fans auraient ce qu'ils voulaient à partir de maintenant. Je suis pas sûr que Karrion Kross ça faisait partie de ce que les fans voulaient. Hein. Géliel, peut-être toi tu attendais avec impatience le retour de Karrion Kross.
Ah bah carrément, surtout que dès que j'ai entendu, dès qu'il y a eu du bruit, là, je me suis dit, ah bah tiens, il y a une nouvelle musique qui se lance. J'avais pas du tout accroché au personnage de Karrion Kross en version main roster, et j'avais pas du tout vu la version avec Scarlett, qui par contre semblait remporter quand même quelques suffrages. Ouais. Donc, du coup, quand j'ai vu effectivement que c'était Karrion Kross et que j'ai vu qu'il y avait aussi Scarlett, ça m'a effectivement renvoyé aux remarques de plusieurs d'entre vous, me dire bah tiens, pas mal. Et puis il m'arrave Drew McIntyre pour pas un radis. J'ai trouvé l'intervention vachement sympa avec le compte à rebours là en face de la Bloodline. Pourquoi pas s'ils le remettent en selle, je sais pas comment ils le positionnent, hein, parce que il y a quand même Clash of the Castle, c'est quand même écrit, il y a des choses qui sont un petit peu écrites, hein. Je sais pas comment ça va se passer pour la suite. N'empêche que si globalement ils le ramènent dans le main roster avec la gimmick qui marchait bien, pourquoi pas. J'ai trouvé que l'entrée était sympa, quoi. Ça a fait son effet, il est allé directement attaquer la tête de la table. Moi, très content de ce truc-là, même si, comme je disais, hein, j'ai pas l'historique sur le bonhomme côté NXT, et j'ai un a priori très négatif sur l'ancien perso version main roster, quoi. Mais en tout cas, je trouvais que c'était vraiment sympa ce face à face, et puis le fait qu'il ait retrouvé sa gimmick.
Il y a une partie du pari qui réussit alors du côté de Triple H, parce que s'il arrive à t'intéresser à un Karrion Kross que t'as connu uniquement par le main roster. C'est déjà un joli tour de force.
Oui, mais parce qu'il revient avec son ce qui avait plus ou moins marché quand même, quoi.
Ouais, c'est ça. Et on peut dire qu'à NXT, c'était calibré aux petits oignons, hein, le personnage de Karrion Kross qui montait très vite très haut, avec une entrée phénoménale. Scarlett, ça rajoute du piment. Le mec a le physique qu'il faut. Maintenant, il n'a pas convaincu grand monde par son in-ring, mais ça, c'est pas bien grave. Ça se travaille, surtout dans le même roster, les règles sont pas les mêmes qu'à NXT. À NXT, il y avait eu un faux départ parce qu'il avait gagné le titre suprême et il s'était blessé, je crois, assez rapidement. Et après, il avait eu un deuxième règne qui était assez rapide puisqu'il a été après en montée dans le main roster où là, il s'est fait bizuter. Hein, je ne veux pas qu'on puisse dire autre chose. Triple H revient en manette et c'est son projet, hein, visiblement, Karrion Kross. Il le maîtrisait parfaitement à NXT, donc j'espère que il le maîtrisera de la même manière ici. On a un sacré pari parce que là il entre directement dans le main event, quoi. Karrion Kross.
Il y a pas. Est-ce qu'il entre directement dans le main event ou est-ce que c'est une bonne question aussi, hein, est-ce qu'il va directement entrer dans le main event ou est-ce qu'il fait juste profite du main event pour faire une entrée dans la lumière? Parce que dans le main event, c'est compliqué, hein, parce que.
Ouais. Maintenant
qu'il arrive dans une feud là, quand même. Hein.
Au milieu d'une feud, ouais. Il faut qu'il s'impose. C'est le coup d'éclat à faire pour s'imposer directement au sommet. Hein. Vu que le projet, de toute façon, c'est de l'envoyer au sommet, hein. Karrion Kross, c'est dans le temps, hein. Des gens comme ça qui débarquent et qui affrontent directement le champion. Bon, généralement, le champion était plutôt le top babyface, hein, plutôt un John Cena ou un Hulk Hogan. Mm. Là, c'est un peu... effectivement, c'est un gros coup de poker, quand même, de le faire débarquer au milieu de la rivalité entre Roman et McIntyre.
Parce qu'en plus, c'est pas le genre de personnage qui peut trop accepter la défaite, quoi. Donc,
en plus.
Si tu mets directement dans une feuille de... pour la ceinture, ça veut dire que t'as deux options, soit il gagne la ceinture, soit tu tues directement son personnage. Donc c'est.
Mais je pense pas qu'il ait envie de tuer le personnage. Hein.
C'est pour ça, moi, je pense que ça serait intéressant pour lui qu'il ressorte qu'il ressorte vite de la ceinture, quoi. Enfin, ouais. Ou alors avant que tu lui donnes la ceinture, tuer le Roman Reigns, le run interminable de Roman Reigns sur un pari comme Karrion Kross qui reste quand même sur un planté. Ça serait un méga méga pari là. En plus sur SmackDown, le show numéro 1 au monde. S'il se plante, c'est même sa carrière à lui, Triple H, qui est en jeu sur cette affaire.
Pour moi, c'est son premier gros coup de poker direct. Hein. Je veux dire, je m'attendais pas à voir Karrion Kross débarquer comme ça, direct et taunter Roman Reigns direct, quoi.
Ouais, surtout.
Et puis le pauvre McIntyre, quoi, dans l'histoire, c'est son moment et là il se met déjà. Il se fait déjà un peu pousser sur le côté par un mec qui n'était même pas sous contrat il y a une semaine. Chaud les marrons chauds, hein ? Où est-ce qu'on va avec cette histoire-là ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Donc, je ne sais pas. Moi, je table sur le fait que Triple H, il a un projet sur le long terme et qu'il sait ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'on en pense ? Hein ?
On va le donner dans les top flops, ça. Je ne dis rien pour le moment.
Je ne dis rien. En tout cas, mission accomplie. Je pense qu'on a hypé pour la suite. On a envie d'en savoir plus. Et on verra bien ce qui se passe. En tout cas, moi, je trouve ça étonnant que Triple H, il arrive à signer des catcheurs comme ça aussi rapidement. Je pensais qu'il y avait un problème au niveau des finances, etc., qu'on ne pouvait pas payer qui on voulait. Visiblement, Nick Khan...
Ouais, il n'a pas coûté trop cher non plus.
Je pense qu'il n'a pas coûté très cher non plus. Effectivement, ça doit être plus cher, plus difficile de récupérer un mec comme Strowman ou Bray Wyatt. Ouais,
voilà. Tout à fait.
Là, on a pris vraiment les gens qui... il y aura d'autres arrivés à Monday Night Raw, on vous en parlera, mais... effectivement, c'est pas des mecs qui devaient coûter trop cher et qui ont dû beaucoup rechigner au téléphone.
Des mecs qui n'ont pas été pris par l'AEW, du coup étaient plus des salaires un peu, on va dire, des salaires impact, quoi. Donc c'est comme le niveau largement en dessous, hein.
Ouais, parce que je sais plus, je crois qu'il a été à la Major League Wrestling, mais rapidos après son passage à Raw. Karrion Kross, ici il a fait, il était dans le projet avec Braun Strowman et Et
Easy Free.
Easy Free, hein, le truc de cinématique wrestling là. Mais ça n'a pas donné grand-chose. Et donc du coup, visiblement, il n'a pas hésité longtemps hein, à re-signer chez Tonton Hunter.
J'ai eu un petit souci technique, je suis revenu.
Ah.
T'as raté tout le mal qu'on a dit ouais, de
qui pas... J'écouterai la review comme d'habitude, je verrai bien.
Voilà. Et tu as une hygiène irréprochable. De toute façon, on a fait le tour de la question. C'est l'heure du mot de la fin. Et qu'est-ce qu'on fait dans le mot de la fin? C'est un top, un flop et une note. C'est ça, non?
Ça me semble honorable.
Ah, ça me semble historique.
Allez, qui c'est qui se lance?
Allez, je viens de revenir, j'y vais.
Allez, vas-y, chaud.
Alors, mon flop, je vais commencer par le flop. Je vais le donner au Gauntlet Match. Pas pour les... Un peu si, parce que c'était bien botché, c'était un peu décevant. Je suis pas persuadé que la victoire de Shayna Baszler nous amène à grand-chose. Enfin, voilà, c'est ce truc-là qui avait une stipulation, que j'aime beaucoup.
Ouais.
Finalement, il était... pas terrible et il accouche d'un truc où je suis pas persuadé que je vais aimer ce que je vais voir. Voilà, donc voilà, pour moi c'est mon flop. Mon top, je vais le donner paradoxalement, même si on vient de discuter de on sait pas trop, etc. avec Karrion Kross, je vais quand même le donner à Triple H parce que y a pas un truc nouveau. Alors ça va pas durer non plus, mais en tout cas. Il arrive à nous surprendre quasiment à chaque show. Alors peut-être qu'il y est pas pour tout, etc. Mais en tout cas, il y a une espèce de hype sur les weekly qui se fait parce que il y a quasiment à chaque fois un nouveau truc ou un truc auquel on s'attend pas. Ouais. Et ça, c'était quelque chose que j'avais noté depuis. Je m'étais fait la remarque déjà sur une review il y a quelques temps. Sur le fait que c'était quand même devenu vachement convenu au niveau des surprises, quoi. Et qu'on avait besoin aussi de retrouver ce truc où on s'y attendait pas. On fait « Oh, merde, on aime !» ou « On n'aime pas !» Mais ce truc où on fait « Oh, putain, on s'y attendait pas du tout !» Et ben ça manque aussi. Il y en a aussi besoin, indépendamment de la qualité de l'in-ring, indépendamment de la qualité des histoires, etc. Il y a aussi ce petit piment, ce petit truc de la surprise. Et je trouve que là, alors il nous en a donné hein, dans SummerSlam, il n'y a pas à tortiller, mais ça continue. Et pour le moment, j'apprécie et donc c'est mon top sur ce SmackDown. Et puis ma note, le contenu était pas si riche qu'on a pu le voir ces derniers temps, donc je vais pas aller très très haut, mais je vais quand même donner un 3.25, voilà, 3.5 un peu trop, 3 peut-être un peu juste, 3.25 parce que finalement j'ai passé quand même un bon moment. Et puis j'ai été quand même hypé sur certains trucs et même si je sais pas où est-ce qu'ils vont aller avec le retour de Karrion Kross, je m'interroge et ça me plaît.
Et ouais, des surprises. Je pense qu'on va avoir quelques semaines de surprises. Là. Le temps de la passation de pouvoir entre Triple H et Vince McMahon. Papy, qu'est-ce qui est ton mot de la fin?
Des surprises. Alors après, les surprises, petit bémol avant d'attaquer mon mot de la fin, j'espère juste que ça ne sera pas tout le temps des anciens gars d'NXT qui viennent ou qui reviennent. Quoi, parce que voilà, il faut se calmer un petit peu, Triple H. N'oublie pas que tu as un main roster qui est comme meilleur que les gars que tu ramènes. Ne pas oublier ça hein. Les gars NXT déjà c'était NXT et en plus la plupart ont connu la mort d'NXT et y ont participé, juste un petit rappel.
C'est ça. Ils sont peut-être la cause même hein.
Ils sont, voilà, je n'en dis pas plus. Du coup le flop, je vais pas le donner à NXT hein. Je vais le donner alors je vais rester un peu dans la même veine que Géliel en tapant un peu dans la division féminine. Moi, ce qui m'a plus choqué, c'était le micro que le catch. Mais je vais donner mon flop à Michael Cole et Pat McAfee pour leur désastreuse défense de Liv Morgan. La Liv Morgan, elle galère et je trouve qu'elle est vraiment pas aidée par ce genre de défense à la con. Donc, c'est eux qui prennent le flop pour elle. Le top, je vais le donner à l'opener. Moi, j'ai trouvé l'opener frais là avec le McAfee, Corbin et Ricochet qui vient s'y rattacher. C'était dynamique, c'était frais, ça mange pas de pain, ça n'a probablement pas de suite, je pense, mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était une bonne utilisation des catcheurs du roster de SmackDown. Et ma note, du coup, c'est dans la continuité de ça. En fait, j'ai trouvé que contrairement à Raw, où il y avait tout un pan du roster qui avait été oublié, là, il y a quand même pas mal d'utilisation du en dépit de certains mecs que push Triple H, il y a aussi des gars qui étaient déjà là avant, qui continuent à avoir des histoires et tout. Donc le roster a été plutôt bien utilisé. À noter comme qu'il y a quelques petites disparitions, hein, un peu comme sur Raw. Là, on va noter qu'il n'y a pas Madcap Moss qui était là, encore ouais. un gros balèze, hein, ni Sheamus, ni Ridge Holland, ni tout ça. Donc c'est toujours un petit peu pareil. Alors après, SmackDown, c'est particulier parce qu'il y a quand même des gars qui disparaissent une semaine sur l'autre vu qu'il n'y a que 2 heures. Mais quand même à suivre, voir ce qui va lui arriver dans le futur. Mais néanmoins, c'était plaisant par rapport à Raw, mais ça manquait un petit peu de... J'ai trouvé que c'est... Les histoires avançaient pas trop, quoi. Il y avait de la surprise, un peu de surprise, un petit peu de démarrage de trucs, mais c'était pas non plus la folie complète. Donc je donnais un simplement 3, un 3 d'encouragement, en disant c'était mieux que Raw, mais j'attends, c'est pas encore ça qui va me faire regarder la semaine prochaine avec attention. Donc faut qu'il continue à y aller et à essayer de développer un peu plus ces nouvelles histoires qu'il lance.
Ouais, moi j'avoue que j'étais pas focalisé. H24 pendant l'émission, il y a 2-3 trucs qui m'ont fait lâcher un petit peu le suivi des événements. Dites donc, vous allez m'enlever d'un doute, il n'y avait pas les Maximum Male Models cette semaine.
Non, ils n'étaient pas là.
Et ben voilà, non. Et ben ça, non ce plus. Sera mon flop, l'absence des Maximum Male Models, c'est pas possible de pas avoir sa petite dose de Maximum Male Model chaque semaine. Le top, je vais le donner à Jey Uso, que j'ai trouvé impeccable dans ses petits segments.
Main Event Jey Uso,
j'adore les Uso en ce moment. Moi. Je trouve qu'ils font, ils sont au top au niveau de leur personnage. À chaque fois qu'ils font des matchs, c'est de la bombe. C'est quasiment les seconds derrière. Roman Reigns au top de la fédération, j'ai l'impression. La note, je vais mettre un 2,75. Il y a quand même un gros trou avec le Gauntlet match quand même. La division, ouais. La division elle est féminine, elle est vraiment pas terrible. Bon, c'est sauvé, tout ça est sauvé par le main event, la surprise du chef. Il y a quand même bon le truc avec les Viking Raiders, c'est pas non plus des plus enthousiasmants, même si au moins on est débarrassé pour l'instant de Veerman et non de pas de Veerman de
Jinder Mahal
et Shanky, donc ça c'est bien, mais ça ne suffit pas. Voilà, bah je trouve qu'il voilà Triple H a fait qu'il pouvait avec ce qu'il avait. Mais il va falloir secouer un petit peu SmackDown pour que ça devienne peut-être un peu plus percutant sur toute la longueur du show, sans avoir des gros coups de mou. Mais ça va être chaud avec la division féminine qu'on a, ça va être quand même compliqué. Hein. J'espère qu'il va réussir à re-signer Sasha Banks et compagnie.
Ah, ça paraît en bonne voie hein, si on lit un peu en diagonale hein, quand même.
Ouais. Les nouvelles sont plutôt bonnes.
Mais du coup, ça aussi, hein, finalement, ça pèse hein, sur la division. Parce que, alors, surtout pour Sasha Banks, hein, mais Naomi était aussi quand même dans un, voilà, ouais, dans un bon
momentum. Un bon momentum. Hein.
Un bon momentum
Charlotte, hein, donc, quoi. Voilà. Merde. Charlotte.
Oui, aussi, oui. Aussi, ouais.
C'est vrai que là, on a vraiment que les seconds couteaux, en fait, hein, dans cette division féminine. Plus que les seconds couteaux. Hein, le fond de l'arrière du...
C'est un champ de ruines.
Ouais, c'est un champ de ruines. Donc, bah voilà, bah, on croise les doigts pour que ça avance la semaine prochaine. Alors, je comprends. Ouais, mais c'est vrai qu'ils auraient pu envoyer Bailey et compagnie à SmackDown. Ça aurait été peut-être plus.
Ouais, non, mais c'est pour ça qu'on se demande s'il n'y a pas d'autres filles qui ont débarqué pour régler le compte chez. Ouais. Parce que Liv Morgan, c'est vraiment faible quoi, pour les renforcer. Hein.
Ouais.
En plus, c'est plus Ronda non plus maintenant. Donc,
il n'y a plus Ronda, il n'y a plus rien.
Qui n'était pas au niveau vraiment, mais bon, c'est pas ça qui a rangé les affaires.
Non, il n'y a plus personne.
Alors, soit il y en a une qui va exploser, hein, qui va nous révéler tout son charisme latent.
Alia
soit, Alia, par exemple. voilà.
Non, moi, je mettrais une pièce sur Shotzi, mais bon, il faut qu'il tente.
Ouais, hein. Il faut qu'il tente quelque chose. Shotzi, à mon avis, devrait la renvoyer à NXT. Je pense qu'il y a moyen d'en faire quelque chose, mais elle est montée trop vite. Hein. Elle est montée trop vite dans le main roster, en fait, pour être clair. Et le reste, j'en vois aucun avenir sur aucune d'elles. Donc. On verra ce que la soupe nous dira la semaine prochaine. Donc voilà, bah, on a fait le tour de SmackDown. On se retrouve bientôt pour Monday Night Raw, hein, évidemment. Je vous rappelle qu'on est dispo sur toutes les bonnes plateformes de podcast. On est sur YouTube. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter, c'est @catchupcdc. Facebook, Facebook, Instagram et évidemment vous pouvez vous abonner si c'est pas déjà fait parce que c'est gratos et cliquer sur la petite cloche pour être averti dès qu'il y a quelque chose qui sort un nouveau contenu et pouvoir en profiter. Bon papy, merci beaucoup d'être venu.
Et merci à toi Ringside de m'avoir chaudement invité dans ce studio.
Oui, oui, on a bravé la chaleur. Merci à toi Géliel également.
Et ben merci Ringside et puis merci papy aussi pour cette review.
Et oui, c'est toujours un plaisir de reviewer avec vous deux. Pour vous les fans, on espère que ça vous a plu à écouter autant que nous à enregistrer. Et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures dans le monde merveilleux de la WWE. À bientôt les amis, ciao, bye bye.
Salut à tous.
Salut à tous dans la sueur et les slips.
Ou dans les slips en sueur plutôt, non?
Les deux.
Est-ce qu'on transpire le catch plus que d'habitude en ce moment?
Un peu plus, hein, je dirais, à vue de nez.
Ouais, on peut le dire.